Place Info.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Comment le gouvernement et le ministre que vous êtes comptent-ils répondre à l'inquiétude en ce moment des étudiants ?
Bien, d'abord en les écoutant, bien entendu. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. Mon secrétaire d'État, Gabriel Attal, en a reçu hier et continue demain. Bien sûr, Frédéric Vidal a fait déjà tout un travail au cours des dernières semaines et des derniers mois en matière de dialogue social avec les étudiants. Il y a d'ailleurs eu, en cette rentrée, un certain nombre de choses qui étaient importantes, notamment en termes d'augmentation des bourses. Et puis, vous le savez, une mesure qui a été importante en matière de pouvoir d'achat, ça a été le fait de ne plus avoir de sécurité sociale à payer de la part des étudiants. Autrement dit, ils sont automatiquement à la sécurité sociale et n'ont plus à payer les plus de 200 euros.
Qui fait, euros, mais
les
il faut 217 euros. Par une autre somme qu'il faut payer de 90 euros.
C'est ça. Mais ce qui fait, et dont sont exonérés ceux qui sont boursiers. Donc ça fait, le fait d'avoir une conscience des problèmes sociaux qui peuvent exister quand on est étudiant, c'est évidemment très présent. Et Frédéric Vidal, il travaille en permanence. On est aussi conscient qu'il y a encore de très grands progrès à faire. Et évidemment, ce drame nous le rappelle. Et donc, il y a évidemment tout un travail qui reste à faire et que Frédéric Vidal est fait en lien avec les organisations qui représentent les étudiants.
Sur les bourses, Jean-Michel Blanquer, vous avez rappelé le chiffre 1%, 1,1% d'augmentation cette année après un gel les trois années précédentes, ce qui fait donc 1% de hausse sur 4 ans. Est-ce qu'il y aura un geste sur ce point-là ?
Alors, ce n'est pas à moi de le dire. Ce sera le cas échéant à Frédéric Vidal. Mais
ce qui est
important, le chiffre que vous venez de dire, en pourcentage, c'est quand même en pourcentage sur cette année, ça représente quand même 50 millions d'euros.
Mais ça reste 1% sur 4 ans.
Bourses, oui, mais il faut toujours qu'on ait une idée des grands montants, si vous voulez. La totalité, c'est plus de 5 milliards d'euros de bourses pour les étudiants. C'est plus que le budget du ministère des Affaires étrangères. La France est un des pays qui fait le plus en matière de bourses étudiantes. Simplement, c'est vrai qu'il y a de nombreux bénéficiaires et que vu du point de vue de l'étudiant, ça reste difficile parfois de joindre les deux bouts avec
les bourses. Parce que les prix des logements, les prix de l'alimentation, les prix des transports, pendant ce temps, ils ont augmenté.
Alors, vous avez raison de mentionner ces trois postes budgétaires qui représentent la vie concrète de l'étudiant. Quand vous êtes boursier, vous avez aussi d'autres avantages. Par exemple, le fait de payer autour de 3 euros un repas à la cantine universitaire. Là aussi, il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça représente pour le budget public. On peut sans doute faire mieux. Il peut y avoir des progrès de ce côté-là. Il y a un programme ambitieux de logement, vous le savez, pour les étudiants, à l'échelle du quinquennat. C'est 60 000 logements qui doivent être construit. On est déjà à mi-chemin de cet objectif. Mais il faut certainement faire plus et mieux. Et puis surtout, avoir une vision globale du sens de la vie étudiante, c'est-à-dire de comment on accompagne l'étudiant vers la réussite. Parce que le but n'est pas simplement, disons, d'atténuer les difficultés sociales. Le but est de faire qu'il y ait un bien-être de l'étudiant.
Renaud Dely.
Vous évoquiez à l'instant le logement, qui est effectivement un des postes budgétaires qui grève le plus le budget des étudiants. On se souvient aussi que le début du quinquennat avait été marqué par une baisse de 5 euros des APL, des allocations personnalisées logement. Est-ce qu'il faut revenir justement et donner faire un effort en cette matière pour les étudiants?
Alors, l'APL n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe en matière d'aide sociale. En matière de logement, par exemple, si vous êtes au CROUS, vous n'avez pas l'APL, mais par contre, le fait que vous avez un logement très peu cher, et c'est beaucoup mieux que d'avoir l'APL.
Sur le logement, est-ce qu'il faut faire un effort supplémentaire pour les étudiants?
Sans aucun doute.
Mais vous savez,
de façon générale, si vous voulez, sur le logement, et là, c'est un travail entre Frédéric Vidal et Julien de Normandie, mais c'est évident que c'est pour les étudiants, comme d'ailleurs pour d'autres catégories de la population. Je pense, par exemple, aux fonctionnaires qui sont amenés à travailler dans des endroits dont ils ne sont pas natifs, ou tout simplement à la population en général, quand il y a besoin de nouveaux logements sociaux, c'est évidemment un domaine qui a un impact considérable sur le pouvoir d'achat.
Donc il faut un coup de pouce financier.
Ce qui est certain, c'est qu'on doit avoir une politique qui fait sens globalement. C'est vrai dans ce domaine comme
là,
dans l'autre.
Urgence.
Avec le coup de pouce, il a été sur les bourses là, avec l'augmentation de 46 millions d'euros dont j'ai parlé. Mais il peut être aussi sur d'autres domaines, en étant encore plus volontariste sur le logement, sur l'alimentation, sur les transports.
Il y a de l'argent dans les caisses, Jean-Michel Blanquer, en ce moment ou pas ?
Bah, de toute façon, sur ce sujet comme sur d'autres, vous aurez sans doute envie d'aborder différents domaines.
Mais retraites aussi dans
sur ce sujet comme sur d'autres,
il y a de l'argent dans les caisses à nouveau ?
Mais pas spécialement. Non, si vous voulez, nous sommes tous la France, nous sommes tous l'État. Donc sur ces sujets-là, on doit tous être responsables.
Mais vous entendez la cocotte minute sociale en ce moment.
Je pense que
le 5 décembre qui approche.
j'utiliserai pas les mêmes mots que les vôtres. J'entends l'attente sociale et cette attente, elle est normale.
Et il faut y
elle
répondre.
Correspond à des besoins qui ne datent pas des deux dernières années. Et si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous entendons parfaitement domaine par domaine les attentes qui existent. Et si vous voulez, c'est pourquoi le sujet, c'est pas tant de savoir s'il y a de la mobilisation sociale ou pas, parce qu'en réalité, les revendications, elles sont entendues, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine des étudiants, dans d'autres domaines, dans le domaine scolaire, bien sûr, nous entendons, nous comprenons une certaine attente. Très souvent, sur ces sujets-là, les problèmes ont déjà été pris à bras le corps sur 2 ans. Regardez, dans le domaine de la santé, des choses ont été faites. Simplement, les solutions, elles sont parfois pas immédiates. Elles requièrent parfois des visions à long terme.
C'est ce que vous allez dire aux Français qui s'inquiètent aujourd'hui. Attendez, prenez le temps. Les réformes n'ont pas encore porté leurs fruits. Ou il va y avoir autre chose dans les semaines ou les jours qui viennent.
Ça dépend des domaines, parce qu'il y a des domaines où on arrive à avoir des réformes qui ont des fruits immédiats. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire de démagogie. Si vous prenez le domaine de la santé, quand il faut former plus de médecins, on est bien obligé d'admettre que sur ce point-là, il y a nécessairement une attente. Je crois que sur chacun des sujets, on doit être une société responsable, où on regarde, comme dans une famille, si vous voulez, les moyens que l'on a, comment on les répartit, qu'est-ce qu'on en fait, et comment on est tous solidaires pour avancer, pour améliorer les choses. C'est ce que nous essayons de faire.
Mais vous évoquez quel domaine de la santé, Jean-Michel Blanquer? Hier, justement, Emmanuel Macron a dit qu'il avait entendu le mouvement hier dans l'hôpital public, mais Agnès Buzyn, elle avait déjà annoncé 2 trains de mesures. Emmanuel Macron en annonce d'autres pour mercredi prochain, des mesures fortes pour répondre à cette attente. Est-ce que c'est pas un peu le symbole d'incarnation de la méthode du gouvernement qui a toujours un train de retard? Il faut une manifestation, il faut des revendications pour que finalement vous entendiez et vous annonciez des mesures.
Je pense que c'est tout le contraire.
Vous n'êtes pas toujours en réaction.
Au contraire,
c'est un encouragement à manifester, en fait.
Non, certainement pas. C'est tout le contraire de ce que vous venez de dire. Et ce que vous venez de dire, au contraire, la réponse à ce que vous venez de dire est illustrée par ce que je disais précédemment. En d'autres termes, si vous prenez le domaine de la santé que vous venez de citer, on n'a pas attendu une certaine mobilisation sociale
pour avancer. Déjà nombreux mois.
Vous avez, dès le début, Agnès Buzyn a travaillé en très grande concertation d'ailleurs. Elle a annoncé son plan santé 2022 qui se met en application avec parfois des sujets qui ont une application immédiate et puis d'autres qui supposent du temps. Et donc, il y a une stratégie. C'est pas de la politique à la petite semaine. Il y a une véritable stratégie. Elle est transparente. Elle est concertée. Elle existe. C'est vrai dans le domaine de la santé.
Mais elle ne répond pas aux urgences.
Et puis, parfois, il faut évidemment rajouter quelque chose, infléchir, envoyer un signal qui est un signal matériel, mais qui est aussi un signal immatériel. C'est-à-dire le fait que on est tous ensemble dans le même bateau sur ces sujets. On a tous intérêt à ce que l'hôpital marche bien. On a tous évidemment une très grande sympathie et empathie envers les personnels médicaux parce qu'on voit tous ce qu'ils font au quotidien. Donc, on n'est pas dans une situation, si vous voulez, de conflit où nous, gouvernement, ne comprendrions pas une certaine fatigue ou une certaine impatience qui existe. Simplement, on doit tous être responsables et apporter des solutions ensemble. Et je crois qu'on est d'autant plus crédible pour cela qu'on n'a pas attendu, évidemment, la période actuelle. Ça, si on considérait que le gouvernement n'a pas fait de réforme depuis 2 ans, ça se saurait. C'est tout l'inverse qui se passe. On nous reproche souvent d'en faire trop. Donc c'est bien qu'on a pris la mesure des sujets et que, évidemment, les résultats ne viennent pas tous tout de suite.
Il y a les étudiants, il y a l'hôpital, il y a les enseignants qui s'inquiètent de la réforme des retraites. On va en parler dans un instant avec vous, Jean-Michel Blanquer. Vous allez nous dire comment vous allez faire pour qu'ils ne soient pas les grands perdants de cette réforme qui s'annonce. 8h41, tout d'abord, le rappel de l'actualité avec Léo Téchère qui vient de nous rejoindre.
Première neige et premiers dégâts de l'hiver. 320 000 foyers privés d'électricité en Rhône-Alpes. Situation qui peut encore empirer. 1 millier d'agents Enedis appelés en renfort. Un vote inattendu à l'Assemblée nationale. Les députés réintègrent l'huile de palme dans les biocarburants. Jusqu'en 2026, sur France Info, l'élu Mathieu Orphelin accuse les lobbyistes de Total. L'agriculture bio progresse en France, production doublée en 5 ans. Mais ce n'est pas suffisant, il faut encore importer 30% de la demande. Nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza cette nuit. Accord de cessez-le-feu pas du tout respecté, plus de 30 morts depuis mardi. Et l'équipe de France qualifiée pour l'Euro 2022 football, victoire compliquée contre la Moldavie, 2-1. Et puis un Beatles de retour. Tour en France l'année prochaine, tournée de 4 grands stades pour Paul McCartney à Paris, Lille, Lyon et Bordeaux.
France Info. Et tout est plus clair.
Jean-Michel Blanquer, les enseignants redoutent de perdre beaucoup lors de la réforme des retraites. Aujourd'hui, leurs pensions sont calculées sur leurs 6 derniers mois de salaire. Ce ne sera plus le cas à l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Et est-ce que leurs pensions vont baisser si la réforme se fait?
Non. L'objectif, depuis le début, et nous l'avons très clairement dit, et c'est le président en premier l'a dit, le Premier ministre aussi, c'est que on entre dans le nouveau système que en ayant réglé auparavant les problèmes que peuvent poser les nouvelles règles du jeu. En d'autres termes, la réforme des retraites, dont il faut toujours rappeler le sens, hein, le sens c'est plus de justice parce que une même formule pour tous les Français, grâce à la retraite à points. Encore une fois, sur ce point comme sur d'autres, il faut d'abord bien comprendre qu'on ne fait pas la réforme pour le plaisir de la réforme, on fait la réforme parce qu'il faut aller, en l'occurrence, vers plus de justice et aussi plus de simplicité, plus de transparence. Ça c'est le but et c'est un but profond pour toute la société française. Ensuite, on se rend compte que domaine par domaine, ça peut créer des problèmes. C'est vrai dans le cas des enseignants, et le point déjà important, c'est que nous le reconnaissons sans aucun problème.
Il y a un problème pour les enseignants spécifiques.
Il n'y a pas du tout de différence d'appréciation entre ce que disent les organisations syndicales et ce que je peux dire.
Une fois qu'on a posé
le problème, on discute et on regarde. Et c'est ce qu'on est en train de faire de manière très précise et très technique en ce moment même. J'ai déjà eu deux réunions très importantes avec les organisations syndicales sur ce point. On a commencé à accomplir ce que j'avais annoncé il y a plusieurs mois, c'est-à-dire l'existence d'un observatoire des rémunérations qui nous permet d'avoir une idée claire de manière vraiment très précise. Il y a 1 million de personnels à l'éducation nationale de la situation. On se rend compte que les rattrapages qu'on doit faire portent notamment beaucoup sur les entrants, les jeunes, donc dans les jeunes professeurs. Et donc, on est en train d'élaborer une stratégie pour cette amélioration des rémunérations. Dès l'année 2020, il y a de premières améliorations, mais c'est à court terme. Mais surtout, l'objectif, c'est d'avoir un raisonnement sur la durée qui est lui-même dépendant de ce qui va se préciser sur la réforme des retraites.
C'est-à-dire un plan d'augmentation pluriannuelle de salaire dans l'éducation nationale.
Une vision complète sur plusieurs années qui dépend aussi du début de la réforme, enfin de la nature et de l'ampleur de la réforme des retraites, bien entendu. Chaque point dépend des autres. C'est pour ça que c'est assez systémique et que ça requiert du temps. Et c'est pour ça qu'on y travaille de manière, je dirais, très sereine et très concertée. Il y a toute une méthodologie qui s'est mise en place de dialogue social qui a lieu en ce moment même et qui doit nous permettre d'avancer. Et finalement, à la fin, si vous voulez, cette crainte que vous avez formulée peut se transformer en opportunité parce que c'est en effet l'occasion de regarder en face les sujets d'amélioration des rémunérations qui sont nécessaires.
Ça signifie, Jean-Michel Blanquer, que ce système de revalorisation salariale des enseignants, il sera adossé directement à la réforme des retraites, il sera inscrit dans le projet de loi, dans le texte?
Non, il n'est pas nécessairement inscrit dans le projet de loi. Par contre, il est travaillé en relation avec
durée,
tout à fait. Encore une fois, c'est interdépendant. C'est-à-dire, on regarde, et les choses ne sont pas définies au moment où je vous parle. Mais il va y avoir, par exemple, la définition du début de la réforme. Ensuite, il y aura la définition de l'ampleur de l'évolution. C'est-à-dire, de qui est concerné, dans quelle mesure. Vous voyez, les premiers concernés, par exemple, seront peut-être... Là, c'est théorique ce que je vous dis, mais à 90% dans le régime actuel et à 10% dans le régime nouveau. Tout ceci, c'est des choses qui...
Il y a l'enjeu de la valeur du point aussi, Jean-Michel Blanquer.
Oui, bien sûr.
Comment s'assurer qu'il ne baisse pas?
Alors ça, c'est par contre un enjeu général qui touche par définition,
j'essaie de comprendre,
par définition dans le futur système
on
des retraites.
On augmente d'abord les salaires et on fait la réforme ensuite, ou on lance la réforme et on promet aux enseignants qu'on les augmentera plus tard. Ça, son
non,
importance
c'est,
quand même.
Alors, vous avez une loi sur les retraites en 2020.
Oui. Avec effet, pour l'instant, en 2025.
Oui, mais alors, oui, à ce stade...
Est-ce que l'augmentation des salaires, elle aura lieu avant 2025, ou est-ce que c'est un peu comme la clause du grand-père, vous dit, ce sera plus tard?
En réalité, il y aura des augmentations des rémunérations dépendantes de la réforme des retraites, et puis des augmentations des rémunérations indépendantes de la réforme des retraites. Donc celles qui sont dépendantes de la réforme des retraites, elles viendront en même temps que la réforme des retraites. C'est-à-dire si ça commence en 2025, Mais par contre, il y aura quand même d'autres augmentations nécessaires entre 2020 et 2025. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est que dès 2020, nous injectons du pouvoir d'achat pour les professeurs. J'ai quand même un budget de l'éducation nationale qui augmente de plus d'un milliard d'euros en 2020. Je l'ai présenté en commission tout récemment au Sénat et précédemment à l'Assemblée nationale. Ce budget nous permet d'injecter environ 850 millions de pouvoir d'achat l'an prochain. Donc c'est sérieux.
Une autre question sensible et délicate, c'est celle des directrices et des directeurs d'école. Renaud Dely.
On a évidemment en mémoire le suicide de cette directrice d'école maternelle à Pantin en région parisienne. Vous avez annoncé un certain nombre de mesures pour essayer de répondre à ce fléau des suicides qui touchent aussi l'éducation nationale et pour décharger un certain nombre de directeurs d'école justement de certaines démarches qui les accablent, qui les épuisent. Est-ce que vous allez aller plus loin? Est-ce que vous avez un plan d'ensemble à annoncer pour essayer d'endiguer ce fléau?
Oui, de nouveau. C'est la question du sens et la question de la vision d'ensemble. Vous avez raison, je pense, d'utiliser cette expression qui est en jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller faire les choses précipitamment, mais vraiment dans le bon ordre. Donc j'ai pu annoncer des mesures de court terme. C'est celle que j'ai annoncée cette semaine dans le cadre d'un dialogue social, là aussi très approfondi avec les organisations représentatives. Ça se traduit déjà, par exemple, par un moratoire sur les enquêtes administratives, ce qui permet d'alléger un peu, en cette fin d'année, la charge administrative des directeurs d'école. Ça se traduit aussi par une enquête qui a lieu en ce moment même avec tous les directeurs d'école de France pour faire remonter les propositions du terrain. Cela nous permettra d'annoncer au début de l'année 2020 une série de mesures valables pour la rentrée suivante. Elles iront dans le sens de l'allègement des tâches administratives, dans le sens de l'appui aux directeurs d'école, et puis peut-être dans d'une évolution du statut, mais ça c'est un sujet qui nécessite encore beaucoup de concertation et surtout qu'on regarde les remontées de l'enquête parce que tout le monde n'a pas le même point de vue là-dessus.
Pour les alléger de ces tâches que vous évoquez, ça va nécessiter de créer des postes, de les aider, d'avoir qu'ils aient davantage d'encadrants à leur disposition. Ils se sentent souvent esselés, un peu abandonnés, ces directeurs d'école.
Oui, il y a différentes possibilités, enfin il y a différentes perspectives. Vous avez l'aide administrative, mais ça dépend aussi de la taille de l'école. Il y a aussi ce que l'on est capable de faire en termes de finances publiques sur un tel sujet. Ça requiert aussi de la concertation avec les collectivités locales qui font beaucoup déjà sur ce genre de questions, mais de manière hétérogène dans toute la France. Et puis, vous avez un travail à faire aussi sur tout ce qu'on appelle la médiation du quotidien. C'est-à-dire le fait de parler avec les parents d'élèves, téléphoner à un parent quand un enfant est absent, etc.
Ça peut pas être délégué à quelqu'un d'autre.
Ça dépend. Il y a des choses qui doivent être faites par le directeur lui-même. Par exemple, quand il faut aller ouvrir la porte 15 fois par jour à un parent d'élève, ça peut être délégué à quelqu'un d'autre.
Alors,
j'ai proposé, par exemple, qu'on mette plus de services civiques dans les écoles primaires.
Donc, ils seront là pour ouvrir la porte 15 fois par jour.
Oui, pas seulement pour ouvrir la porte, pour parler, pour faire des choses qui sont instructives aussi pour eux, puisque c'est le but du service civique. Mais vous savez, être en dialogue avec les gens toute la journée, c'est formateur.
Ça peut être une des tâches des jeunes du service national universel.
Non, pas du service national, du service civique. Du service civique. Mais j'ai vu que ça plaisait à certains et pas à d'autres. Vous savez, sur ces sujets-là, il n'y a pas forcément d'unanimité. Donc, le dialogue a lieu en ce moment même et nous verrons, et donc c'est au mois de janvier que nous verrons par exemple, cette idée-là prospère ou pas.
D'accord.
Moi, je suis actuellement très à l'écoute, surtout, parce que là aussi, c'est pareil, on a un diagnostic en réalité très partagé avec les acteurs de terrain. Tous les Français doivent être très reconnaissants aux directeurs d'école, comme on l'est vis-à-vis des personnels de santé, parce que ils sont essentiels dans la vie de notre pays. C'est vrai d'ailleurs aussi des chefs d'établissement dans le second degré. Et cette reconnaissance, elle doit se traduire par des conditions de travail meilleures, qui dépendent de nous tous d'ailleurs, pas seulement de l'institution Éducation nationale.
Jean-Michel Blanquer, vous restez avec nous si vous voulez bien. On va parler reconnaissance faciale et réforme du bac avec vous dans quelques instants. Pour l'heure, il est 9h10, voici Léo Téchère pour le rappel de l'actu.
Jusqu'à 30 cm de neige en plaine en Rhône-Alpes, transport scolaire suspendu dans la Loire, la Haute-Loire et le nord de l'Ardèche, trafic SNCF toujours très perturbé et un mort en Isère. Un arbre est tombé sur un homme qui déblayait la route. Le haut commissaire aux retraites, pas fâché avec le Premier ministre Jean-Paul Delevoye et avec Édouard Philippe hier soir à Pau. Les deux hommes affichent leur entente sur leur futur projet de loi. 10 enfants malades du cancer dans le Jura, un nombre anormalement élevé. L'Agence régionale de santé ordonne une enquête épidémiologique dans 5 communes des Rousses. Une fusillade dans un lycée près de Los Angeles aux États-Unis, 2 morts et 3 blessés. Le tireur interpellé est un adolescent de 16 ans. Le Chili, secoué par une violente crise sociale depuis un mois, le Parlement convoque un référendum pour réviser la Constitution, un texte hérité du dictateur Pinochet. Et puis l'équipe de France de football qualifiée pour l'Euro 2020, elle prend même la tête de son groupe après sa victoire laborieuse contre la Moldavie, 2-1.
France Info. Et tout est plus clair.
Jean-Michel Blanquer, les épreuves communes du bac en première doivent avoir lieu au mois de janvier. Le principal syndicat du secondaire, le SNES-FSU, réclame leur annulation. Il explique que vous n'êtes pas prêt. Est-ce que vous les maintenez, ces épreuves, ou est-ce que vous êtes prêt à faire un geste sur cette réforme qui est l'une de celles que vous avez mises en œuvre depuis que vous êtes arrivé au ministère ?
Elles sont maintenues, évidemment. D'ailleurs, ce serait techniquement impensable de ne pas les maintenir. Et nous sommes prêts. Donc, ça ne sert à rien de développer des inquiétudes qui ne sont pas fondées.
Le SNES-FSU se trompe ?
Bah écoutez, je vous invite à regarder l'actualité depuis un an, hein, et les prophéties qui ont été faites par certains en vous disant que la rentrée serait impossible parce que les emplois du temps seraient catastrophiques. En réalité, ça s'est passé très bien sous cet angle-là. J'en passe et des meilleurs, je ne vais pas vous refaire là. Mais on a souvent la mémoire courte quand on parle de ces choses-là, et je trouve que ceux qui font des prophéties négatives devraient tirer les leçons de leur...
Bon, donc vous pouvez rassurer ou inquiéter tous les élèves de première, il y aura bien des épreuves
en janvier. Bien sûr, par contre, ce qui est certain, c'est que nous avons fait ce que nous avions promis, c'est-à-dire il y a un comité de suivi qui inclut... bien entendu le syndicat que vous avez mentionné et d'autres, et qui nous permet de piloter en tenant compte des échos du terrain les choses, ce qui nous a permis de bien préciser les règles de ce contrôle continu qui aura lieu en janvier, dont les deux grands principes sont à la fois objectivité et simplicité, parce que l'inquiétude qui pouvait exister, c'était sur la complexité de l'organisation. Mais tout ceci comporte des progrès. Encore une fois, je le dis pour chaque réforme, hein, elle existe, elle a une raison d'être, cette réforme. C'est notamment de permettre un travail en continu des élèves. Elle est aussi une manière de hausser le niveau général de notre pays. Et une des illustrations de ça, c'est que, par exemple, dès le 1er décembre, la banque de sujets de ce contrôle continu, comme promis, existera. Autrement dit, tout un chacun pourra consulter la liste des sujets possibles en matière de contrôle pour ces contrôles continus. Ça montre un petit peu la richesse finalement de ce nouveau système, avec une richesse des sujets en l'occurrence et une possibilité pour chacun de les voir.
Renaud Dely.
Alors, en ce qui concerne la sécurité dans les établissements scolaires, Jean-Michel Blanquer, deux lycées de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'un à Marseille, l'autre à Nice, expérimentaient un système de reconnaissance faciale des élèves à l'entrée des établissements. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, a rendu un avis défavorable pour condamner donc cette expérimentation. Pas de quoi faire renoncer le maire de Nice, Christian Estrosi, qui était notre invité ici même à votre place il y a quelques jours, et voici ce qu'il déclarait.
Ça n'est pas de la reconnaissance faciale, c'est de la comparaison faciale. C'est d'autant plus incompréhensible de la part de la CNIL. La comparaison faciale, c'est ce que vous faites avec votre passeport lorsque vous passez au contrôle aux frontières. Et nous allons redéposer des dossiers, puis je vais vous dire une chose. De toute façon, ça se fera.
La reconnaissance faciale à l'entrée des lycées, ça se fera, Jean-Michel Blanquer ?
Alors, je pense qu'il faut bien interpréter ce qu'il a pu dire. Quand il dit ça se fera, ça peut pas se faire contre un avis de la CNIL. En revanche...
Sur le fond, vous y êtes favorable ?
Alors, il faut mettre les choses en perspective. D'abord, les sujets de reconnaissance faciale sont des sujets extrêmement sérieux. Nous savons que c'est un sujet qui, techniquement, a énormément progressé ces dernières années, avec certaines utilisations qui peuvent être intéressantes, mais aussi de réels dangers en termes de liberté publique. Regardons ce qui se passe en Chine en la matière. C'est évidemment, il est tout à fait normal que la CNIL soit très vigilante sur ce type de sujet. Essayons de réfléchir à la société dans laquelle nous sommes en train d'entrer, si nous allons trop loin en matière de reconnaissance faciale. Maintenant, il peut y avoir des usages pertinents. La CNIL a émis un avis, il faut le prendre très au sérieux. Le maire de Nice a évidemment des préoccupations de sécurité qui sont tout à fait légitimes. Maintenant, il faut, on l'entend dans ce qu'il a dit, hein, il faut reconsidérer le dossier et obéir aux critères fixés par la CNIL.
Considérez-vous quand même, en tant que ministre, que ce genre de dispositif peut potentiellement menacer les libertés publiques ?
Ah ben bien entendu, il y a toujours un équilibre à faire. Sur ce type de questions, il faut toujours faire un équilibre entre les opportunités de sécurité que ça présente, qui sont réelles, et je prends très au sérieux les sujets de sécurité, vous le savez bien, mais en même temps être très attentif à l'engrenage dans lequel on peut, et donc la CNIL est là pour ça, l'engrenage en termes de liberté publique, si vous voulez. Encore une fois, vous avez maintenant des pays où on peut vous reconnaître à chaque instant de la journée grâce à des caméras dans la rue. Donc autant,
ça, c'est
par exemple,
un progrès,
aujourd'hui... Non, je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez le cas de la vidéosurveillance en France aujourd'hui, elle a constitué un progrès en termes de sécurité indiscutable dans les endroits où c'était fait, y compris d'ailleurs aux abords des établissements scolaires. Donc c'est un progrès. Mais en même temps, ça doit s'accompagner de garanties. Peut-être qu'il y a certains éléments de la reconnaissance faciale qui peuvent être intéressants. Mais nous devons le... J'ai créé... Par exemple, tout récemment au ministère, un comité d'éthique sur les enjeux de données numériques, présidé par Claudie Aigneret. Parce que je suis très attentif à ces questions. On doit évidemment entrer dans l'ère du numérique et en tirer tous les avantages pour nos élèves, mais on doit aussi protéger notre société contre des dérives qui seraient des atteintes aux libertés publiques. Donc il est normal de chercher un équilibre entre ces deux éléments. Moi, je suis forcément très respectueux de ce que dit la CNIL et en même temps très 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 vigilant sur les enjeux de sécurité. Et je suis certain que sur un dossier comme celui-ci, il y a un chemin de crête à trouver, mais qui suppose de reconsidérer le dossier, comme le disait le maire de Nice.
Jean-Michel Blanquer, vous irez voir le dernier film de Roman Polanski ?
Écoutez, je vais vous faire une confidence. Je vais, du fait de mes fonctions, je vais très peu au cinéma. Moi, je suis toujours admiratif de ceux qui peuvent vous parler de 15 livres et 20 films récemment, alors que moi,
si vous aviez le temps, vous iriez le voir.
Comment ?
Si vous aviez le temps, vous iriez le voir.
Peut-être. Parce que d'abord, le thème était extrêmement intéressant. Et puis je fais la part des choses. Vous savez, j'ai pas. Puis moi, je m'instaure pas comme juge de tout un chacun.
Est-ce que je peux vous poser la question différemment?
C'est bien qu'il y a une affaire sur le sujet. Je m'estime sans légitimité pour me prononcer, pour condamner quelqu'un ou au contraire l'absoudre. La justice existe pour cela. Je me méfie beaucoup maintenant de ces tribunaux médiatiques du quotidien. Je ne dis pas qu'il est innocent ou coupable. Ce serait d'ailleurs paradoxal, alors même qu'on parle de ce type de sujet dans d'autres domaines, de se mettre à crier avec les loups. C'est pas un sujet sur lequel j'ai à me prononcer.
Est-ce que vous conseilleriez aux enseignants d'aller le voir avec leurs élèves, ce film?
Mais les enseignants sont vraiment assez responsables et grands pour prendre des décisions en la matière. Je serais ridicule de donner une consigne d'aller ou de ne pas aller voir un film en fonction du jugement que j'ai sur le réalisateur. Si vous voulez. Faut se rendre compte, c'est un peu comme le précédent sujet en réalité. Il y a un lien, c'est-à-dire qu'on rentre dans une société qui va finir par porter beaucoup trop atteinte aux libertés à force d'avoir des jugements à l'emporte-pièce, si vous voulez. Donc, je n'ai aucune légitimité pour alimenter des jugements pour ou contre un réalisateur de film, alors que je ne sais rien sur cette question. Donc je trouve qu'on doit tous être un peu responsables sur ces sujets. Bien entendu, quand un délit pénal est accompli, la justice doit faire son travail, ça va de soi. Mais je n'ai pas à installer, moi, une sorte de police de la pensée. Il y a des gens qui, malheureusement, font ça très bien aujourd'hui, et justement, ces gens-là m'inquiètent.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, invité ce matin.
Merci.
De France Info, télé et radio réunis comme chaque matin pour ce rendez-vous politique. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.